Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Le brouillard de la guerre toujours plus épais en Ukraine autour du barrage de Novakarovka. On assiste sur les réseaux sociaux à un déversement d'Infox visant à attribuer destruction et inondation aux Ukrainiens selon des scénarios qui ne tiennent pas la route, nous expliquera notre invité point par point. On reviendra aussi sur les troubles de la semaine dernière au Sénégal avec un bilan qui s'alourdit à 23 morts d'après Amnesty International. Confrontation dans la rue entre opposition radicale et forces de sécurité qui débouche sur une bataille de l'information autour des méthodes de répression du mouvement. L'enquête des observateurs de France 24 est édifiante. Mais pour commencer, on met le cap sur le sud de l'Ukraine avec l'historien militaire Cédric Mass.
Parle.
Cédric Mass, bonjour.
Bonjour.
Les autorités ukrainiennes accusent les Russes d'avoir miné le barrage de Novakarovka et donc de l'avoir fait exploser. Les Russes, eux, accusent les Ukrainiens de l'avoir bombardé. De quels éléments dispose-t-on factuellement pour savoir ce qui s'est passé au petit matin ce mardi sur le barrage ?
Factuellement, il faut savoir que le minage du barrage par les Russes est un fait avéré depuis le mois de septembre. La deuxième chose, c'est que ce minage n'a pu être fait que par les Russes, puisqu'à l'époque, au mois de septembre, ils tenaient les deux berges, puisqu'ils avaient des positions au nord du Dnipr, et que à partir du 11 novembre, à peu près, 11-12 novembre, eh bien, les Ukrainiens étaient d'un côté de la rive et les Russes de l'autre côté, ce qui a empêché une possibilité de déposer des charges, les fougasses, de creuser les trous et de mettre les explosifs qui sont nécessaires pour détruire un barrage qui est quand même une structure qui est beaucoup plus solide que ce que l'on peut voir en apparence, c'est-à-dire que même si vous détruisez la route qui passe au-dessus, c'est pas pour autant que la structure s'effondrera comme elle s'est effondrée. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément factuel que nous ayons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une explosion à 2h20 qui a été constatée et que tout de suite après, il y a eu un débit très important. Alors, elle est signalée par différents témoignages, par des enregistrements, et qu'il y a eu un débit plus important avec des volumes d'eau qui se sont déversés sur le Dnipr en aval de cette retenue d'eau. Voilà, ce sont les seuls éléments que nous ayons aujourd'hui.
Cela ne réfute pas pour l'instant la thèse russe d'un bombardement du barrage ?
Historiquement, pour bombarder un barrage, il faut des moyens colossaux. Les Alliés l'ont fait en 1944-45 en Allemagne. Ce sont des projectiles et des moyens qui n'ont absolument pas été déployés par les Ukrainiens et dont d'ailleurs ils ne disposent pas nécessairement. En réalité, seul un minage peut le permettre et même une frappe qui aurait activé les mines, ce n'est pas possible parce que ce type de minage est contrôlé électriquement. Donc il n'y a pas de risque de fausse explosion. Seuls les Russes avaient la main sur le minage. Donc aujourd'hui, toutes les explications qui seraient données pour expliquer que ça ne serait pas les Russes sont à prendre avec la plus extrême précaution et le plus grand esprit critique parce que tous les indices aujourd'hui, tout le faisceau d'indices concordants et cohérents nous indiquent une responsabilité russe à ce stade, bien évidemment.
Ce n'est
pas du tout la même configuration que le Nord Stream, où là, dès le début, il y avait différentes thèses. Là, il n'y a qu'une seule thèse rationnelle.
Oui, on va revenir sur le Nord Stream un petit peu plus tard. Je voudrais tout de même vous soumettre ces pièces qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. Il y a une thèse qui est celle d'un possible accident ou bien même d'une négligence coupable. On le voit circuler sous forme d'un diagramme qui montre que cet hiver, le niveau des eaux était vraiment au plus bas et qu'il est subitement, les Russes l'ont laissé remonter au plus haut jusqu'à la fin mai et que cela aurait pu fragiliser. Le barrage était déjà fragilisé, que cela aurait pu provoquer ensuite une rupture du barrage.
C'est l'autre explication. Malheureusement, elle ne permet pas de comprendre pourquoi il y a eu cette explosion à 2h20, explosion unique, c'est pas une série d'explosions. Et deuxièmement, pour pouvoir y répondre, il faudra avoir une idée plus claire de l'état exact de ce barrage et notamment de la capacité que l'un des deux belligérants, chacun occupant une des rives et tirant sur l'autre, pouvait encore d'actionner les mécanismes qui permettent d'évacuer l'eau ou de sortir l'eau. En ce qui concerne la fragilisation du barrage, il faut bien comprendre qu'un barrage, c'est une structure qui est extrêmement puissante en dessous. C'est fait pour résister à des tremblements de terre. Et donc, c'est pas parce qu'on a fragilisé la superstructure, la route, les bâtiments qui sont construits au-dessous, que le reste du mur, qui s'évase hein, d'ailleurs, hein, qui ressemble plus à une pyramide qu'à un mur en réalité, que le reste est fragilisé. Je le répète, l'ampleur de la brèche, l'ampleur des dégâts, y compris sur la partie de la centrale électrique qui est juste à côté, la largeur de l'ouverture ne permet pas de conclure à une brèche qui se serait élargie comme ça subitement entre 2h20 et 2h40 du matin le 5 juin ou le 6 juin. Donc c'est pour ça que aujourd'hui il y a quand même une explication principale qui correspond d'ailleurs à un cycle d'opération. Depuis le début juin, on constatait une augmentation très importante de l'activité d'artillerie dans le secteur de Kherson avec des concentrations de troupes ukrainiennes. Ensuite, les réactions en aval, si réellement c'était les Ukrainiens qui avaient été à l'origine de cette catastrophe dénoncée hein, comme un acte barbare par Vladimir Poutine, eh bien à ce moment-là, les Russes ne tireraient pas sur les secours comme ils le font depuis 2 jours, n'empêcheraient pas les Ukrainiens de pouvoir être évacués. Au contraire, ils missionneraient des enquêtes, ils rameuteraient les journalistes internationaux pour faire constater la réalité de la duplicité. Enfin, dernier point, je rappelle que les Russes ne sont pas à leur coup d'essai sur des frappes de barrage, que ce soit à Krivoy Roy ou à d'autres endroits. Ils ont tenté déjà dans le passé de frapper les barrages, mais ils n'ont pas réussi comme cette fois-ci, parce qu'un barrage, pour le détruire à ce niveau-là, avec aussi rapidement, il faut nécessairement entreposer des explosifs à des endroits clés de la construction.
Quand on raisonne sur le fameux argument « à qui profite le crime », je vais vous soumettre des arguments qui sont ressassés sur les réseaux sociaux par les habituels partisans de la Russie de Vladimir Poutine. Donc, il y a l'approvisionnement en eau de la Crimée, pour commencer. Certains disent que les Russes n'auraient pas pu être à l'origine de cette destruction parce que cela va nuire à l'approvisionnement des habitants de la Crimée, dont ils ont le contrôle.
D'une part, avant l'invasion du 24 février 2022, les Ukrainiens avaient coupé ce canal qui permettait d'approvisionner en eau la Crimée. Donc ça fait des années, entre 2014 et 2022, 8 ans, où la Crimée n'a pas eu ses arrivées d'eau. Et ensuite, c'est présumé que le commandement russe prend des décisions de manière rationnelle. Or, depuis le 24 février et l'invasion, on constate bien qu'il ne se préoccupe pas nécessairement de l'intérêt à moyen ou long terme de ses populations, de ses troupes. Tout ce qui lui importe, c'est l'intérêt à court terme. Le vrai intérêt de cette opération-là, c'est de neutraliser entre 500 et 700 kilomètres de front qui deviennent infranchissables pour un temps indéterminé et donc qui permettent aux Russes de libérer des forces alors même qu'ils sont de plus en plus sous pression sur les autres secteurs du front.
Il y a aussi la centrale de Zaporizhzhia qui compte sur l'eau du barrage, qui comptait sur l'eau jusqu'à présent pour son circuit de refroidissement. Cette centrale, elle est sous le contrôle des Russes. Là aussi, c'est assez paradoxal.
Oui, alors là encore, je vous rappelle que cette centrale a été utilisée comme dépôt de munitions par les Russes qui ont entreposé dans l'enceinte de cette centrale, ça a été documenté, qui ont même, sont même servis sur des positions, alors pas au cœur des réacteurs évidemment, mais sur les parkings de la centrale, ont servi de position de tir d'artillerie pour bombarder les Ukrainiens en espérant que les Ukrainiens n'osent pas répliquer pour les frapper. Ne serait-ce que d'attaquer la centrale et d'y combattre pour la prendre de vive force, comme ils l'ont fait fin février, début mars 2022, c'est déjà le signe que ce n'est pas la préoccupation prioritaire des Russes. Le commandement russe a un objectif, satisfaire le dictateur Poutine dans la conquête d'un pays, ou en tout cas dans sa mise, dans sa destruction s'il ne peut être conquis. On est en réalité dans une logique qui est assez similaire à celle qu'on a déjà vue à l'œuvre en Tchétchénie, en Syrie. C'est soit vous acceptez le règne de Poutine, soit on brûle, on détruit tout le pays. Et c'est ce que l'on voit partout, à Kharkiv, on l'a vu à Soumy, on l'a vu à Tcherniv. Songez qu'actuellement, vous avez des bombardements quasi quotidiens depuis les zones frontalières de la Russie, les Européens refusant aux Ukrainiens la possibilité d'y répliquer d'ailleurs, même si les Ukrainiens le font quand même, sur des zones qui ont été évacuées depuis début avril 2022, à Soumy, à Tcherniv. Donc ça, on voit bien qu'il y a juste cette volonté de sanctionner peut-être, de punir, mais là surtout en ce qui concerne ce barrage, de libérer des forces. Vous avez une vraie problématique des deux côtés des belligérants. Nous avons plus d'un millier de kilomètres de front avec entre 150 et 200 000 hommes. C'est très peu quand vous regardez les standards des effectifs de la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils tiennent même pas un dixième de cela. avec ces effectifs-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas de front continu, vous avez des fronts qui sont vides, vous avez juste des points bloquants, des espèces de checkpoints fortifiés dans la profondeur, aux croisements principaux, et le reste du terrain n'est pas tenu. Donc il faut en permanence reconstituer ces réserves et obtenir une densification des forces, surtout face à une offensive ukrainienne, une contre-offensive ukrainienne qui est annoncée depuis plusieurs semaines et maintenant.
Alors, justement, le président Zelensky a dit que ce drame n'allait pas finalement avoir d'impact sur la contre-offensive.
Alors, c'est là encore de la pure propagande. Il s'agit de rassurer ses forces. En réalité, force est de constater que ça va avoir un impact très important puisque cela va neutraliser pour un temps indéterminé tout ce secteur du front qui était très important parce que c'était le secteur sur lequel l'armée ukrainienne avait déjà prononcé son première série de contre-offensives à partir de la fin du mois d'août 2022. Rappelez-vous, ces premières attaques qui avaient permis de fixer des forces au nord du Dnipro en bombardant les points de passage, dont déjà la passerelle qui surplombait le barrage de Novakakovka, pour ensuite lancer l'attaque foudroyante à Izium, à Balaklia Izium, donc entre Kharkiv et Kramatorsk, dans le nord-est du pays, sur un autre front, et tomber dans une zone qui avait été dégarnie, justement pour aller renforcer d'autres secteurs du front. En permanence, vous avez des deux côtés une gestion des réserves, une gestion des effectifs qui ne sont pas suffisants pour tenir en force tous les éléments du front qui est gigantesque. Hein, je le répète, dans les standards de 1914-1918, 15 000 hommes, vous tenez entre 10 et 20 kilomètres, vraiment en étirant vos forces 50 kilomètres. Là, vous avez 150 000 hommes à peu près qui doivent tenir un millier de kilomètres, ou entre 800 et 1000 kilomètres, c'est beaucoup trop, voire plus. En réalité, c'est plutôt 1700 ou 1800 kilomètres maintenant que les Ukrainiens ont lancé des offensives directement en Russie, enfin des raids en tout cas de diversion en Russie, dans la zone de Belgorod notamment.
D'accord.
Donc ces éléments-là sont les plus importants. Et là encore, le discours du président ukrainien, il est là pour rassurer ses forces, c'est un discours de propagande. Mais en réalité, bien évidemment que ça change tout. Ça change tout. Vous avez une des quatre options possible sur une contre-offensive ukrainienne qui devient fermée pour un temps indéterminé, peut-être définitivement.
Cédric Mas, pour en revenir à la guerre informationnelle, certains font l'amalgame sur les réseaux sociaux avec ce qui s'est passé en septembre dernier, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. On a appris cette semaine que les renseignements de pays occidentaux, et notamment les États-Unis, auraient été informés d'une opération menée par les Ukrainiens. Où en est-on sur cette affaire? Quelle est la pertinence de ce parallèle avec la destruction du barrage?
Alors, il n'y en a aucune. Les Ukrainiens ont aussi inondé une partie des zones qui étaient au nord des avances, des colonnes qui avançaient sur Kiev, des colonnes russes et tchétchènes qui avançaient sur Kiev depuis la Biélorussie, puisqu'il y a le réservoir de Kiev, qui est un autre réservoir sur le Dnipro, et ils avaient ouvert les vannes aussi. Mais la configuration n'était pas du tout la même et ça ne veut rien dire. Là, en effet, sur Nord Stream, on ne sait toujours pas. Depuis le début, il y a plusieurs options, il y a plusieurs explications différentes. La thèse russe, la thèse américaine, rappelez-vous, certains ont expliqué doctement que c'était les Américains, d'autres que c'était les Ukrainiens, d'autres que c'était des commandos polonais. Enfin, il y a différentes explications, on n'en sait rien. Là, en revanche, ça n'a rien à voir. En plus, c'était pas du tout la même zone, c'était pas du tout la même, ce sont pas du tout les mêmes moyens mis en œuvre et c'était pas du tout la même période en termes d'opérations et de configuration des opérations. Donc là, le parallèle n'est pas pertinent. Les Ukrainiens aussi ont inondé une partie de leur position, je le répète, pour pouvoir se défendre. Ça n'explique pas, ça ne permet pas de conclure que cette fois-ci, ce serait eux qui l'auraient fait.
Comment vous expliquez l'échange de ce type d'arguments dont certains sont absolument infondés sur les réseaux sociaux?
C'est pas simplement qu'ils sont infondés, c'est que c'est toute la différence entre un doute raisonnable, puisqu'en effet, il faut exercer son esprit critique et mettre en doute de manière raisonnable toutes les affirmations pour les vérifier, et le doute systématique qui est de mettre en doute tout de manière systématique et absolue, obstinée, toute parole publique officielle. Donc aujourd'hui, ce doute systématique a été travaillé en profondeur depuis plus de 15 ans d'action médiatique sur les réseaux sociaux. Vous avez des fermatrolles qui travaillent là-dessus et qui travaillent en profondeur en utilisant un tas d'éléments. On l'a vu à l'époque du Covid et des vaccins. Mais il y avait eu avant ces éléments-là. Et donc, une fois que vous avez instauré ce doute systématique, qui est une posture psychologique, voire même psychiatrique dans certains cas, eh bien, il suffit de donner des arguments de doute et les gens ne sélectionneront que ces arguments de doute-là. De même que certains doutent que l'homme ait posé un pied sur la Lune parce qu'il y a un pli du drapeau qui est un peu différent et ils vont aller dans ce détail-là en s'imaginant plus intelligent. Eh bien, là, c'est pareil. Donc, en permanence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez une batterie d'arguments qui sont incohérents les uns avec les autres, mais qui, ensemble, vont pouvoir toucher plusieurs couches différentes d'esprit qui sont plongés dans ce doute systématique. En réalité, vous ne doutez, dans ces cas-là, que parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous avez un biais idéologique, et parce que vous avez envie que ça ne soit pas vrai, c'est tout. Parce que sinon, il n'y aura aucune raison de douter à ce stade, en tout cas, sauf démonstration contraire. Quand vous avez 99% de chances que ça soit l'explication A qui corresponde, si vous avez envie de vous accrocher au 1%, c'est pour une autre raison que l'exercice d'un esprit critique ou d'un raisonnement rationnel. C'est ce qu'on appelle en effet le doute systématique, qui est vraiment un problème aujourd'hui, puisque je vous rappelle que sur la base de cette posture de réaction intellectuelle, on en arrive à mettre en cause des résultats d'élections. Or, les élections, c'est le cœur du bon fonctionnement d'une démocratie, et donc c'est comme ça qu'on peut saper dans les profondeurs une démocratie, comme seules des mines déposées dans les tréfonds d'un barrage peuvent saper à ce niveau le barrage. Voilà.
Merci beaucoup Cédric Passe pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes historien militaire et président de l'Institut Action Résilience. La chronique Les Dessous de l'Infox, c'est aujourd'hui avec Quentin Péchard des Observateurs de France 24. On revient sur la situation au Sénégal à propos des manifestations de la semaine dernière suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Condamnation qui le rendrait inéligible à la présidentielle de 2024. Alors ces événements ont donné lieu à une véritable guerre d'image sur les réseaux sociaux, au point que la police nationale sénégalaise décide de convoquer une conférence de presse pour donner sa version des faits. C'était dimanche dernier. Vous l'avez suivi, cette conférence, Quentin. Qu'est-ce qui s'y est dit précisément ?
Alors, l'objectif de cette conférence, c'était notamment de présenter aux journalistes des images prouvant que les manifestations pro-Sonko avaient été infiltrées. Infiltrées par qui ? Là, je cite Ibrahima Diop, directeur de la sécurité publique, par des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer leurs opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Pour cela, la police sénégalaise a montré 3 extraits de vidéos où on voit des hommes armés, en civil, ouvrir le feu dans les rues de Dakar. Pour en savoir plus sur ces individus, la rédaction des Observateurs est parvenue à retrouver les originaux de ces vidéos qui circulent largement sur les réseaux sociaux. Et pour 2 d'entre elles au moins, les images complètes racontent une toute autre histoire que celle donnée par la police.
Alors, dans ces 2 vidéos, les hommes armés ne seraient donc pas des manifestants.
C'est en tout cas ce que laissent penser certains passages des images originales. Prenons par exemple la 3e vidéo montrée lors de la conférence de presse. On peut y voir un homme en maillot rouge ouvrir le feu avec une arme de guerre sur un rond-point du nord de Dakar. Pour la police sénégalaise, cet homme est en face à face avec les forces de sécurité. Mais à la fin de la vidéo originale dont est tiré cet extrait, on retrouve le même homme à l'arrière d'un pick-up avec 4 personnes en uniforme policier. Celles-ci ne font rien pour l'arrêter, il semble plutôt faire partie du groupe. Quelques secondes plus tard, l'homme en maillot rouge saute du pick-up et retourne courir dans la rue, arme à la main. Cet extrait n'a pas été montré dans la vidéo présentée par la police aux journalistes dimanche, tout comme un autre du même type qui montrait un homme armé surveillant une rue avec 2 agents.
Face à ces éléments, que dit le ministère de l'Intérieur sénégalais ?
Alors pour mieux comprendre, on a tenu à échanger avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mamka. Il soutient la version policière selon laquelle ces vidéos montreraient bien des manifestants armés, et lorsqu'on lui demande pourquoi il semble agir de manière coordonnée avec des hommes en uniforme, il répond « Écoutez bien, ce n'est pas parce qu'on a vu des gens en uniforme dans ces vidéos que ce sont des membres de la police. Je ne veux pas entrer dans les détails, car les enquêtes sont en cours, mais si la police a montré ces images, c'est qu'elle est sûre que ce n'étaient pas des policiers. »
Alors vous avez vérifié ces dires, Quentin ?
Oui, sur la vidéo montrant l'homme en t-shirt rouge, on peut voir un des hommes en uniforme tirer depuis son pick-up. Selon plusieurs experts en armement consultés par les observateurs, ce qu'il manipule est un lanceur de grenades non létal Cobra, une arme spécifique aux agents de maintien de l'ordre en possession de la police sénégalaise. Tout indique donc qu'il s'agit bien de policiers, difficile pour le moment de connaître leur lien exact avec ces hommes en civil armés que certains Sénégalais qualifient de nervi, c'est-à-dire hommes de main ou tueurs. Mais ces 2 vidéos semblent montrer que des hommes en uniforme agissent de manière conjointe avec eux.
Merci Quentin Péchard. Je rappelle que l'intégralité de cette enquête est à voir sur le site des Observateurs de France 24.
Les Dessous de l'Infox se terminent pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril qui a réalisé cette émission. Entretiens et chroniques sont à réécouter sur notre site internet rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. Alors nous, on se retrouve ici la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI.